c'est l'Ancien Testament. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 26 et au verset 4. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 4, verset 3 même. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 3. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Japné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisait des présents à Ozias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Et puis nous continuons au verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même souhaita de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Isaïe, fils d'Amoz, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux, et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen. Quand on lit ce texte, on est attristé de voir quel bon début le roi Ozias a eu et quelle triste fin aussi fut la sienne. Il y a des choses formidables. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et puis il est dit au verset 7, « Dieu l'aida, il devint très puissant. » Il est dit, « Il fut merveilleusement soutenu par Dieu, bien sûr, jusqu'à ce qu'il devienne puissant. » Et puis, la suite est moins brillante, puisqu'au verset 16, il nous est dit, « Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Autrement dit, il s'est laissé envahir par l'orgueil. Et ce fut sa perte. Il a outrepassé ses droits. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait une stricte séparation entre la fonction royale, n'est-ce pas, qui était dévolue aux descendants de David, et la fonction sacerdotale, qui était dévolue aux descendants d'Aaron. Voilà. Et Dieu avait voulu faire en sorte que deux choses soient bien distinguées, séparées. La charge de roi et de sacrificateur, en même temps, était trop pour un seul homme. Mais Ozias, eh bien, s'est arrogé le droit, n'est-ce pas, d'assurer des fonctions sacerdotales, ce qui était en contradiction flagrante avec l'enseignement de la parole de Dieu. Il l'a fait par vanité, par orgueil. Et quand on lui a fait le juste reproche, reproche à juste titre, il s'est irrité et la lèpre a éclaté sur son front. Et le texte nous dit que voilà, il a fini ses jours dans une maison écartée. C'est son fils qui a assuré le règne à sa place et il fut même exclu du culte de l'Éternel. Quelle terrible déchéance due à l'orgueil. Vous savez quoi? L'orgueil, c'est un fléau. C'est un fléau contre lequel chacun d'entre nous, nous devons nous tenir en garde. Mais à la lumière de ce texte, nous voyons même que, paradoxalement, le succès peut être une source de danger. Car le texte, j'y reviens, précise, n'est-ce pas, qu'il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Et lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Vous voyez, la bénédiction, la réussite, les succès que Dieu lui avait accordés avec abondance lui sont montés à la tête. Ils sont montés à la tête. Et oui, le succès peut être une source de danger, un risque de tomber dans l'orgueil. Et c'est pourquoi les plus doués, ceux qui ont des qualifications reçues du Seigneur, que ce soit dans le domaine naturel ou dans le domaine spirituel, doivent particulièrement veiller afin, comme Ozias, de ne pas se laisser emporter, envahir par l'orgueil. Après tout, la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, ne te glorifie pas comme si tu ne l'avais pas reçu. La Bible dit que ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. C'est une mise en garde, c'est un avertissement. Et en ce qui concerne l'orgueil, eh bien, bien des passages de la parole de Dieu y font référence. Par exemple, il est écrit dans les livres des Proverbes, je n'ai pas noté la référence, « L'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. » Il est encore dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Il est encore dit qu'il vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Et il est encore écrit que c'est par orgueil qu'on excite des querelles. Alors, quelle est l'origine de l'orgueil? Eh bien, ce péché trouve son origine dans le cœur de cet être angélique de haut rang qui avait pour titre le chérubin protecteur, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, au verset 14, il fait référence à ce personnage. Également dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14 et au verset 12, voici ce qui est écrit concernant celui qui, eh bien justement, par le fait de son orgueil, a connu lui aussi une terrible chute et est devenu Satan. Il est dit ceci, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez, de toute éternité, là, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, il y avait donc cet être angélique de haut rang, ce chérubin protecteur qui vivait dans la proximité immédiate du Tout-Puissant, qui jouissait d'une gloire particulière. Et justement, les avantages, les privilèges, les prérogatives qui étaient les siennes lui sont à lui aussi montées à la tête. Et il a revendiqué ce qui ne lui revenait pas de droit. Je serai comme Dieu. Je serai comme Dieu. et ce fut sa perte, et c'est ainsi qu'il est devenu Satan. Satan, ça veut dire l'adversaire, l'ennemi de Dieu, et par là même l'ennemi des hommes. Et il est parvenu à inciter la créature humaine à concevoir elle aussi de l'orgueil, ce péché qui finalement est à la base de tous les autres, puisqu'il constitue un acte de révolte contre l'autorité divine. Rappelez dans le jardin d'Éden, quel fut l'argument de Satan, hein? Si tu manges du fruit défendu, tes yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Voilà, comme des dieux, n'est-ce pas? Et ils se sont laissés, Adam et Ève, entraînés sur ce terrain-là. Ainsi, voyez-vous, l'orgueil est d'inspiration diabolique. Je pèse mes mots. L'orgueil, la vanité, la prétention, tout cela est d'inspiration diabolique. Et il est profondément enraciné, ce sentiment, dans la nature humaine charnelle et déchue de l'homme. Il y a quelque chose en nous qui, instinctivement, nous pousse dans cette voie-là, n'est-ce pas? Nous l'avons tous ressenti, éprouvé certainement. Alors, voyons un petit peu quelles sont les manifestations et les conséquences de l'orgueil. Nous prendrons quelques exemples tirés de la parole de Dieu. Tenez, on pourrait évoquer notamment le cas de Saül, le premier des rois d'Israël. À un certain moment, Dieu lui fait le reproche suivant, car c'était un reproche. Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es devenu le roi d'Israël. Mais c'est vrai que lorsqu'on examine, peut-être le ferons-nous un jour plus en détail, le parcours spirituel de cet homme, Saül, qui est devenu le premier roi d'Israël, on s'aperçoit qu'au départ, il était extrêmement humble. Lorsque Dieu l'a désigné comme devant être le roi du peuple d'Israël, la parole de Dieu nous dit qu'avec beaucoup de modestie, n'est-ce pas, d'humilité, de timidité même quelque part, Saül est allé se cacher parmi les bagages. Et il a fallu le tirer de là pour le présenter au peuple. Le malheur, c'est que si au départ il était petit à ses propres yeux, il n'a pas su le rester. Et son orgueil lui a fait éprouver plus tard de la frustration face au succès de David. Vous voyez ? Succès de David. Quand David a terrassé le géant Goliath, c'est une histoire bien connue, même les enfants de l'école du dimanche, ils connaissent cette histoire par cœur. Hein? Ah, les femmes ont composé un cantique. Terrible, les femmes. Hein? Et elles ont chanté « Saül a frappé ses mille » et David, c'est 10 000. Alors, Saül, voyez, eh bien, il a perdu le contrôle. Hein? Et il s'est dit, il ne lui manque plus que la royauté. Voilà, son orgueil a été froissé, blessé. Il a éprouvé de la frustration. Et ça a débouché sur la jalousie, au point de se laisser envahir par la haine et même par le désir de meurtre envers David. Alors, sans aller jusque-là, lorsque parfois certains se laissent saisir par l'orgueil et par la jalousie qui en découle, eh bien ça peut nous pousser, voyez, à avoir des propos pleins de médisance. On dénigre l'autre parce que finalement on est jaloux de lui. On a des critiques acerbes à son égard parce qu'on se sent frustré par rapport au succès qu'il peut avoir et que moi je n'ai pas. Voyez, c'est sur ce terrain-là que Saül s'est laissé entraîner. La parole de Dieu nous parle de notre homme aussi, qui s'appelait Adonija. C'était l'un des fils de David. Et l'Écriture nous dit qu'il se laissa emporter par l'orgueil. Il se laissa emporter par l'orgueil. Il a laissé libre cours à son orgueil. Il ne l'a pas réprimé, il ne l'a pas contrôlé, il n'a pas réagi comme il aurait dû vis-à-vis de cet état d'esprit, mais il se laissait emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Pourtant, Dieu avait clairement indiqué que c'était Salomon, son frère, qui devait succéder à David. Mais voyez, devenu fou d'orgueil ce garçon, et se laissait emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Une ambition démesurée, voilà. Et ça, c'est la caractéristique de l'orgueil, une ambition démesurée outrepasser ses droits, ses prérogatives, revendiquer une place d'honneur. Voyez, l'apôtre Paul va nous mettre en garde contre ce genre d'état d'esprit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 3. Voici ce que Paul nous dit. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ça vaut la peine de le relire, ce texte, puisque je vois qu'il s'affiche. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et au verset 16, toujours du chapitre 12, il est dit ceci, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Il y a des gens qui revendiquent les grandes choses, qui ambitionnent de grands services, de grands ministères. Mais avant d'atteindre les hauts sommets, il faut commencer par le bas de l'échelle. Voyez, il faut avoir cette simplicité, cette humilité de faire les tâches les moins valorisantes. Après tout, c'est ce que Jésus a fait, rappelez-vous. Hein, lorsqu'il a lavé les pieds des disciples, les amis, ça n'était pas très glorieux. Hein. Je sais que dans certaines communautés, par exemple les adventistes, on se lave les pieds. Mais comme disait un frère, on se lave les pieds propres. Tandis que ça, j'y étais pas, mais je suis sûr que les pieds des apôtres, ils étaient moins propres que ça. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils n'avaient pas de chaussettes en ce temps-là. Hein. Et ils marchaient sur les chemins poussiéreux du pays d'Israël, de telle sorte que, certainement, que la transpiration plus la poussière, vous voyez un petit peu le spectacle. Et ce sont ces pieds-là que Jésus a lavés, qu'il a essuyés avec le linge dont il était saint. C'était le travail d'un esclave, du plus bas dans l'échelle sociale. Voyez, ne vous laissez pas attirer, n'aspirez pas, pardon, à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Tenez, on revient à Osias. Voyez, lorsque, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il a outrepassé ses droits, il a été plus loin que Dieu n'aurait voulu qu'il aille, il s'est arrogé, n'est-ce pas, cette prérogative d'offrir le parfum à l'Éternel, il n'a pas accepté les réprimandes justifiées que les sacrificateurs lui adressaient avec beaucoup de respect. Roi Osias, tu n'as pas le droit et ça ne tournera pas à ton honneur, voyez, tout en respectant le personnage. Eh bien, ils ont quand même, avec assurance, mais aussi avec douceur, repris Osias, mais il ne s'est pas laissé reprendre. Et il est dit, il s'irrita contre les sacrificateurs. Et quand on mérite d'être repris et que l'on fait la forte tête, alors, mes amis, on est sur une voie dangereuse. La parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, au verset 1er, « Celui qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement et sans remède. » Waouh ! Un homme qui mérite d'être repris, c'est écrit, et qui raidit le cou, qui a la nuque raide, sera brisé subitement et sans remède. Vous voyez ? Si un de mes frères, une de mes sœurs me reprend, à juste titre, bien sûr, à juste titre, et que je réagis par orgueil, par vanité, eh bien c'est Dieu qui va se charger de m'expliquer le tarif, et ça risque parfois d'être extrêmement douloureux. Ne soyons pas ainsi. Acceptons la répréhension fraternelle lorsqu'elle est justifiée, même quand elle ne nous semble pas justifiée, ça doit toujours nous inciter à la réflexion, voyez ? Même quand je pense avoir raison, il faut qu'il y ait en moi cette petite voix qui puisse s'exprimer pour me dire « Et si c'était vrai ?» Et si, ici ou là, même s'il a été un petit peu loin dans ce qu'il t'a raconté, il n'y avait pas même quelque chose que tu devrais prendre en considération. Même si reproche me semble exagéré, est-ce que quelque part il n'est pas au moins un petit peu fondé? L'Écriture dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Ça, Ozias, il n'a pas voulu se faire. Non, il s'est cabré, il s'est irrité parce que son orgueil était froissé. Si seulement il avait pu dire « Ok, ça va, vous avez raison ». J'ai commis une erreur, je m'en humilie devant Dieu. Oh, certainement que Dieu aurait fait grâce et la lèpre n'aurait pas éclaté sur son front. Mais c'est parce qu'il n'a pas accepté la répréhension que les hommes de Dieu lui adressaient. Eh bien, Dieu est intervenu. Et on sait de quelle manière. Il y a aussi le cas de l'apôtre Pierre. Hein? Vous savez, quand je pense à Pierre, il y a un verset qui me revient à l'esprit. C'est Proverbe 14, verset 16. Il est dit que l'insensé, il est arrogant et plein de sécurité illusoire. Vous voyez ? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il ne trompe jamais. Il risque rien. Voilà. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Eh bien, ça colle exactement avec l'attitude de l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus avertit ses disciples en disant, bien voilà, chacun d'entre vous, vous allez m'abandonner et me laisser entre les mains de mes bourreaux. Et Pierre a dit, quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors Jésus a pointé son doigt certainement sur l'apôtre bien-aimé en lui disant, eh bien, Pierre, toi, le premier, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Et je lisais hier ce texte dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Il dit que Pierre, il a repris plus fortement. Voyez, il a, non seulement il n'a pas tenu compte de l'avertissement prophétique du Seigneur Jésus, mais il a insisté. Il s'est opposé en lui. Non. Quand bien même les autres t'abandonneraient, moi, je ne te renierai jamais. Pourtant, il savait pertinemment que la parole de Jésus, elle s'accomplissait toujours. Mais voyez, il était subjugué par son arrogance, par la haute opinion qu'il avait de lui-même. On connaît la suite, hein. Il a mordu la poussière, puisqu'il a renié effectivement trois fois. Et ce fut un brisement pour lui. Ah, faut tenir compte des avertissements du Seigneur. Alors, le plus important, finalement, c'est de se dire, ok, d'accord, l'orgueil, c'est un état d'esprit qui se manifeste facilement et rapidement en chacun d'entre nous. Il y a cette mauvaise graine que le diable, depuis le départ, a semée dans le cœur humain. Comment vaincre l'orgueil? Comment vaincre cette tendance naturelle qui se trouve en chacun d'entre nous? D'abord, il y a l'œuvre de la croix. Tout doit nous ramener toujours à la croix. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 24, il est dit ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ, et nous sommes à Jésus-Christ, la plupart, sinon la totalité d'entre nous, alléluia, nous lui appartenons, il nous a sauvés, béni soit Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il s'agit pour nous, donc, comprenez ça, de nous identifier, de nous associer par la foi à la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement je dois croire que Jésus est mort pour moi, lorsque je le crois, je reçois le salut. Mais plus encore, il faut que je croie que je suis mort avec lui. Alléluia! Que je suis mort à moi-même, que je suis mort à mon péché. Parce que justement, c'est à la croix que Jésus a manifesté une humilité absolue. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a ce passage bien connu au chapitre 2, au verset 3, où il est dit ceci, Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, quels étaient ces sentiments? Écoutez la suite. Lequel, existant en forme de Dieu, ou dont la condition était celle de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme ou une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme ou comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Voyez ? À la lumière de ce que Jésus a fait, de l'abaissement auquel il a consenti, eh bien, nous pourrions prier de la manière suivante. Seigneur, je renonce à mon orgueil, ma vanité, et je choisis de m'unir à toi dans la mort. Je déclare maintenant par la foi, je déclare maintenant par la foi que mon orgueil est cloué à la croix, qu'il est vaincu, terrassé, neutralisé et détruit. Et Seigneur, par ta grâce, eh bien, je veux choisir de manifester la même humilité que celle que toi, tu as manifestée en renonçant à l'éclat de ta gloire divine et en acceptant l'humiliation suprême, la mort même, celle de la croix. Voilà donc, voyez, s'identifier par la foi à la mort de Jésus. Je suis mort avec lui. Mort au péché, mort à mon ancienne nature, mort à ce qu'il y a de tordu, de vaniteux, de prétentieux, d'orgueilleux, de jaloux, de mesquin en moi. Je meurs à ces choses-là. Je suis mort en toi, Seigneur. Et puis, il y a le travail du Saint-Esprit. L'œuvre de la croix, le travail du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, l'Écriture dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la douceur aussi. La douceur, la douceur. La douceur et l'humilité sont deux vertus voisines, jumelles. C'est pourquoi Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, les deux vont ensemble. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors même que les disciples se disputaient pour savoir quel était le plus grand parmi eux, lui a humblement assuré le travail d'un esclave en leur lavant les pieds. Vous trouvez ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va reproduire en nous la mentalité de Jésus-Christ, faite de douceur et d'humilité. Vous voyez ? Même si votre propre nature vous entraîne facilement vers la vanité, vers l'orgueil, allez, reconnaissons que il y en a une bonne dose en chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu peut contrer tout cela et mettre à la place l'humilité de Christ. Et puis, il y a la discipline paternelle. Ouais, alléluia. Comment on élève des enfants? On élève des enfants en les aimant, mais aussi en osant les discipliner, oui ou non? L'Écriture dit que l'enfant livré à lui-même, qui fait n'importe quoi, qui n'a aucune règle, aucune limite, il fait honte à sa mère, marqué à son père aussi. Hein. Mais quand on est un bon père ou une bonne mère de famille, on recadre, on corrige au besoin. Dieu est un bon père de famille, alléluia. La famille est très nombreuse, mais il s'occupe personnellement de chacun de ses enfants et il n'en oublie aucun. Et il nous applique sa discipline, d'abord discipline préventive. Ce fut le cas de l'apôtre Paul. Tout à l'heure, nous disions que ceux qui sont particulièrement doués sont plus exposés que les autres au danger de l'orgueil, justement parce qu'ils ont des talents nombreux, diversifiés et évidents. Et c'était le cas de l'apôtre Paul, dit autant sur le plan humain, hein, son érudition et tout le reste, et puis sur le plan spirituel aussi, un homme rempli de l'Esprit, un homme qui a vu le Seigneur Jésus, un homme qui a accompli une œuvre remarquable dans le cadre de l'œuvre de Dieu, de son ministère apostolique. Eh bien, écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez, même pour l'apôtre Paul, tout Paul qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, et parce qu'il était ce qu'il était, eh bien, il y avait un danger. Et Dieu a voulu lui appliquer une discipline préventive, afin qu'il ne chavire pas, afin qu'il ne tombe pas du mauvais côté, afin qu'il ne se laisse pas, comme il le dit lui-même, enflé par l'orgueil, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Eh bien, pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu a mis une écharde dans sa chair. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous donner à coup sûr l'explication concernant l'écharde dans la chair de Paul. Je n'en sais rien et personne ne le sait non plus. Et Dieu a voulu que cela soit comme ça, parce qu'il est souverain et que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons tous nous identifier quelque part à lui. Chacun, nous avons notre écharde. Je crois que le texte littéral en grec dit ceci, un pieu pour la chair. Vous voyez, ce n'est pas, une petite épine là qui vous taquine, non. Un pieu pour la chair, c'est quelque chose de contraignant, quelque chose de difficile, quelque chose qui amène une souffrance. Était-ce physique, était-ce moral, spirituel, je n'en sais rien. Mais le fait est là, vous voyez, pour qu'il ne dépasse pas la mesure, Dieu avait pris des mesures. Parce que Dieu est bon, alléluia. Et quand il nous discipline, eh bien, il ne le fait jamais par méchanceté, par dureté. Non, il a un cœur de père, plein de tendresse. Et c'est parce qu'il est plein de tendresse qu'il veut nous prémunir, n'est-ce pas? Et puis, s'il y a la discipline préventive, il y a aussi la discipline curative. Lorsque la faute a été commise, et parfois, justement, Dieu permet un échec retentissant qui va produire un brisement intérieur propice à faire preuve désormais d'humilité. On parlait de Pierre, mes amis, il est tombé de haut, hein, quand il s'est rendu compte que, comme Jésus l'avait dit, trois fois de suite, dit, il a renié Jésus. Trois fois de suite. La première fois, on pourrait dire, oh, c'est une maladresse. Mais il a remis ça un deuxième coup. Et puis comme si ça ne suffisait pas, une troisième fois, ses yeux se sont ouverts sur sa propre condition. Et l'Écriture dit que sortant de là, il a pleuré amèrement, parce qu'il a touché du doigt ce qu'il y avait dans le fond de son cœur. Quel brisement! Ça l'a marqué à vie. Mais parfois, Dieu permet qu'on connaisse des échecs cuisants pour nous empêcher de ressombrer à nouveau dans les mêmes travers. Tenez, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Moïse. Hein? Moïse, en Égypte, élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Ah, il a dû se dire, voilà, moi je suis parfaitement, quelque part, il y avait déjà l'appel divin, mais ce n'était pas le bon moment, vous voyez. Et il s'est dit, certainement, je suis vraiment l'homme de la situation. Ces pauvres Hébreux, ces pauvres Juifs, je vais régler l'affaire, je vais les tirer de leur esclavage. Et puis tout ce qu'il a réussi à faire, ça a été de tordre le cou à un bonhomme et de l'enterrer dans le sable. Et il a dû fuir. Et puis il est allé à Madian. 40 ans ont passé. Lui, le prince égyptien, il est devenu gardien de chèvres. Il n'y a pas de son métier, mais enfin, en plus, ce n'étaient pas les siennes de chèvres et de moutons, mais ceux de son beau-père. Et quand Dieu vient le trouver, 40 ans après, la baudruche est dégonflée. Et quand Dieu lui dit, vas-y, va vers Pharaon, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Moi, je suis un raté, moi, j'ai échoué. Là, il est mûr, là, il est prêt. Là, il est dans les conditions favorables qui vont permettre à Dieu de se servir de lui, parce qu'il a touché du doigt ses propres limites. Et Dieu parfois permet qu'il en soit ainsi dans nos vies pour qu'ensuite il puisse se servir de nous et que son œuvre se fasse au travers de nous. Alors que Dieu nous aide, hein, par l'œuvre de la croix, par le travail de l'esprit et par la discipline paternelle, à la fois préventive et curative, que Dieu nous aide à ne jamais sombrer dans ce travers majeur que constitue l'orgueil. Et quand nous le voyons pointer le bout de son nez en nous, il faut avoir le courage de dire, Seigneur, à tout prix, fais ton œuvre en moi pour que, comme les autres dont il a été question ce matin, je ne me laisse pas envahir par l'orgueil. C'est terrible ce verset concernant le roi Ozias. Lorsqu'il fut merveilleusement soutenu, j'aime ça, merveilleusement soutenu par Dieu, jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Et Dieu l'a élevé et ça lui a monté la tête. Mais lorsqu'il fut puissant, lorsqu'il a connu la bénédiction, lorsqu'il a atteint les sommets, son cœur s'éleva pour le perdre, et patatrac, ça a été la catastrophe. Il a perdu de vue que les succès qu'il avait eus, il ne les avait pas produits lui-même, mais c'était la grâce de Dieu qui s'était manifestée. Alors, restons dans cet état d'esprit. Seigneur, comme dira Paul, ce que je suis, ce que nous sommes, nous le sommes, par la grâce de Dieu. Et c'est à toi seul que te doit revenir en toute chose la gloire, l'honneur et la louange. Et en ce qui nous concerne, tiens-nous dans l'humilité. Amen. Prions le Seigneur.